Philosophie politique par le père Philippe Saint-Joseph, le 8 janvier 85.
Nous allons continuer de voir comment Aristote parle de l'aspect politique. Nous avons vu la dernière fois la critique qu'il faisait à Platon et nous entrons tout de suite dans ce chapitre 2 du livre 1er où Aristote essaie de préciser. Vous allez voir l'origine. La première, donc, dans ces conditions, si on considérait les choses à partir de leur origine, dans leur développement naturel, comme on le fait dans les autres domaines, nos présentes investigations elles-mêmes apparaîtraient ainsi au regard, sous le regard le plus favorable, sous l'angle le plus favorable. Donc, on va essayer de l'aspect génétique. C'est intéressant, du reste, de voir ça. Quand Aristote prend-il en premier lieu l'aspect génétique ? La première union nécessaire est celle de deux êtres qui sont incapables d'exister l'un sans l'autre. C'est le cas pour le mâle et la femelle, en vue de la procréation. Alors, voyez tout de suite la différence. Platon a considéré le point de vue du besoin de l'aliment. Pourquoi la société existe ? Pourquoi la communauté existe ? Aristote commence par la fécondité. Donc, la survie de l'espèce. Tout de suite. Et c'est intéressant de voir que c'est ça qui est le point de vue premier pour lui. Et cette union n'a rien d'arbitraire, mais comme dans les autres espèces animales, et chez les plantes, il s'agit d'une tendance naturelle à laisser après soi un autre être semblable à soi. C'est l'aspect d'éternité, donc le dépassement du conditionnement du temps, qui pour Aristote explique le point de vue de la procréation. Que l'espèce demeure au-delà de l'individu. Et que l'espèce demeurant au-delà de l'individu, il y a quelque chose de l'éternel qui est présent dans l'espèce. Donc, premièrement, on peut dire que tout de suite, le premier point de départ est différent puisque c'est la finalité de l'espèce. La finalité de la survie de l'espèce. C'est encore, alors, second point, c'est encore l'union de celui dont la nature est de commander avec celui dont la nature est d'être commandée. Le second point de vue, c'est l'union de celui qui commande et celui qui est commandé. Vous voyez que cette union est mise en second lieu, pas en premier. Si c'était mis en premier, ce serait l'efficacité. Ça risquerait d'être l'efficacité. C'est donc la fécondité qui est première. Et la fécondité va commander l'efficacité. Puisque, évidemment, l'union de celui qui commande et celui qui est commandé, l'union de celui qui, dont la nature est de commander avec celui dont la nature est d'être commandé, en vue de leur conservation commune. Donc là encore, en vue, c'est le dion, en vue de leur conservation commune. C'est encore le point de vue de la survie. Et le besoin n'est pas exprimé directement, c'est quand même tout de suite la finalité de ces deux communautés, de ce double mouvement qui est dans cette communauté. En effet, pour ce dernier cas, l'être qui, par son intelligence, c'est là où il faut être très attentif ici, hein, ça va commencer toute l'analyse de ce fameux point de vue qui va jouer un rôle si important à travers toute la vision politique, à travers toute la vision de la philosophie politique, la question de l'union du maître et de l'esclave. Vous comprenez que c'est ça qui est extrêmement important. Alors, ce qui est du moins extrêmement intéressant à voir. Ce qui est intéressant de voir. Le premier, c'est donc l'union homme et femme en vue de la procréation. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, le point de vue de celui qui commande, donc le maître, et celui qui exécute. Donc, oui, ce que nous appelons l'obéissance. Aristote ne dit pas un seul mot de l'obéissance. C'est amusant de voir ça, c'est très intéressant. Celui qui est capable de commander, celui qui par nature est capable de commander, et celui qui est capable d'exécuter. Voilà les deux. Deux premières unions qu'il voit. Les deux relations mutuelles qui fondent cette communauté particulière. Alors il va expliquer, et ceci pour la conservation commune. En effet, pour ce dernier cas, l'être qui, par son intelligence, a la faculté de prévoir, commander, c'est prévoir. C'est la prudence. Commander, c'est prévoir. Voir avant les autres, voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est ça qui est le point de vue essentiel et premier. Donc, pour ce dernier cas, l'être qui, par son intelligence, a la faculté de prévoir, est par nature un chef et un maître. Tandis que celui qui, au moyen de son corps, est seulement capable d'exécuter les ordres de l'autre, est par nature même, un subordonné et un esclave. Vous voyez la définition d'esclave. C'est celui qui, par nature, fouseille. Alors, par nature, le fouseille d'Aristote, il faut alors comprendre bien ce que représente ce fouseille ici. Le par nature d'Aristote prend des significations très différentes. Il y a le nature, la nature au niveau de la philosophie de la nature, et il y a le par nature au niveau proprement politique. C'est ça qui est important à saisir, parce que c'est là où on va saisir l'analogie d'Aristote. Et c'est ce qui fait comprendre combien, quand on lit Aristote et qu'on le lit au niveau de chez, sans tenir compte des niveaux différents où Aristote se situe, on ne comprend plus rien et on met des contradictions dans la pensée d'Aristote. Et donc, c'est ça qui est difficile à saisir. Hein. Ça, c'est évident, c'est tout le côté très subtil d'Aristote. Parce que pour interpréter la politique, il faut connaître toute la philosophie d'Aristote. Je défie quelqu'un d'interpréter la politique sans connaître toute la philosophie d'Aristote. Parce que toute la philosophie d'Aristote est une. C'est une philosophie, quoi. Et elle a des parties différentes, mais c'est une philosophie. C'est ça qui fait que c'est si difficile de transmettre Aristote dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'au fond, on ne comprend plus du tout cela. On peut être un spécialiste de la politique. Comment voulez-vous être un spécialiste de la politique sans connaître la métaphysique d'Aristote ? Absolument impossible. Si on connaît tout le problème de la finalité, si on veut saisir et si on veut comprendre Fouseille, exactement dans ce qu'il veut dire, je ne cherche pas à légitimer la position d'Aristote, nous cherchons d'abord à la comprendre. C'est la première chose qu'on doit faire dans un auteur. Pas avoir d'a priori pour ou contre. On a tous des a priori pour ou contre ce point de vue-là. Il faut chercher à comprendre. Et ça, c'est ce qu'on doit faire quand on lit un auteur. C'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté. Si vous lisez un auteur avec un a priori, même Leibniz, si vous lisez avec un a priori, eh bien, vous ne le comprendrez pas. Et vous le critiquerez tout de suite. Essayez d'abord de le comprendre. Puis ensuite, vous voyez les limites par rapport à l'homme. De là vient que l'intérêt du maître et celui de l'esclave se confondent. Voilà, c'est cette petite phrase qui est extrêmement importante et qui est évidemment très difficile à comprendre. Si je suis dans la perspective hegélienne, je ne peux absolument pas comprendre ce point de vue-là. Aristote semble bien indiquer ici qu'il y a la même finalité du maître et de l'esclave. Et pour lui, tout est là. Il y a la même finalité entre le maître et l'esclave. Pas de finalité. De là vient que l'intérêt du maître et celui de l'esclave se confondent. Je cherche le grec parce que c'est important. Dio, despote, kai, doulo, tout au. Sumferei. Donc, Ils sont identiques. Les tendances, l'orientation du maître et de l'esclave sont la même. Alors, l'intérêt, vous voyez, c'est déjà un tout petit peu une traduction orientée vers le point de vue de l'intérêt. Comme si la coordination du maître et de l'esclave était en premier lieu pour l'intérêt. Alors, c'est pas ça. C'est pour le bien commun. Alors, le bien n'est pas un intérêt. Oui, ça, c'est constamment... On va corriger tout le temps. Mais quand il s'agit de phrases aussi importantes que celle-là, regardez le grec. Et voyez qu'ils supportent, subferei, ils portent ensemble, subferei, c'est porter ensemble. Ils portent le même. Ils ont la même charge. Ils ont la même... On ne peut pas dire qu'ils ont la même responsabilité, mais ils ont ensemble la même responsabilité. C'est le subferei qui est intéressant donc à bien avoir. Ils portent ensemble. Ainsi, c'est la nature qui a distingué la femelle et l'esclave. La nature n'agit nullement à la façon mesquine des fabricants de couteaux de Delphes, mais elle affecte une seule chose à un seul usage. Nous avions déjà vu ça chez Platon. Donc nous retrouvons le même principe, c'est ça qui est intéressant. Nous retrouvons le même principe qui commande Platon et Aristote. Mais vous voyez que tout de suite, c'est utilisé de deux manières tout à fait différentes. C'est utilisé en vue de la finalité, alors que chez Platon, c'était utilisé en vue de l'efficacité. Mais elle affecte une seule chose, un seul usage, car ainsi chaque instrument atteindra sa plus grande efficacité s'il sert à une seule tâche, et non à plusieurs. Alors on retrouve le point de vue de l'efficacité après. En second lieu, mais pas en premier. Le premier, c'est la nature. Alors la nature a la finalité. Et ensuite, l'efficacité. Cependant, chez les barbares, il faut bien voir, comprendre ce que ça veut dire, hein, chez les barbares, la femelle et l'esclave sont mis au même rang. La cause en est qu'il n'existe pas chez eux de chef naturel, mais la société conjugale qui se forme entre eux est celle d'un esclave mâle et d'une esclave femelle. D'où la parole des poètes, il est normal que les Grecs commandent aux barbares. Bien comprendre ça, c'est très intéressant, important. Parce que ça fait partie de toute la limite de la philosophie de la politique d'Aristote. Oui. Ça ne fait aucune limite à la métaphysique. Mais ça fait une limite à la politique. Ça ne fait aucune limite à l'éthique. Mais ça fait une limite à la politique. Parce que vous avez un partage des eaux qui est comme ça. Les barbares d'un côté et les Grecs de l'autre. Et alors, à l'intérieur des Grecs, on a une nouvelle distinction que les autres n'ont pas. Qu'est-ce qui fait qu'on est barbare? C'est quand on ne distingue pas l'esclave de la femme. Extraordinaire, hein? Alors vous auriez beaucoup de barbares. Et c'est ça qui fait le caractère propre du barbare. Il est normal que les Grecs commandent aux barbares. Donc ça, c'est Euripide. Dans l'idée qu'il y a identité de nature entre barbares et esclaves. Les deux communautés que nous venons de voir constituent donc la famille à son premier stade. Et c'est à bon droit que le poète Hésiode a écrit « Une maison en premier lieu, ainsi qu'une femme, un bœuf de labour. » Ça, c'est Hésiode, hein? Est-ce que c'est une maison en premier lieu, ainsi qu'une femme? Et donc, c'est Hésiode qui parle, n'est-ce pas? Alors, il serait plutôt du côté platonicien, vous voyez, que plutôt aristotélicien. Aristote, c'est Hésiode. Car le bœuf tient lieu d'esclave aux pauvres. C'est aussi très significatif. Il faut souligner ces paroles-là. Ainsi, la communauté constituée par la nature, constituée par la nature, pour la satisfaction des besoins de chaque jour, et la famille dont les membres sont appelés par Carondas, compagnon de Huche, et par Épiménide de Crète, compagnon de table. Compagnon de hutte, compagnon de table. Voilà ce qui constitue la famille. Donc, voilà pour Aristote le premier moment qui constitue la famille. Vous voyez qu'ils sont trois. Et c'est pour ça qu'ils forment une communauté. La famille, c'est pas du tout l'homme et la femme. Ça, c'est la famille chrétienne. La famille grecque, aristotélicienne, implique homme-femme, maître et. Alors le maître, c'est l'homme, par nature, chez les Grecs. Et si l'homme n'est pas capable, c'est la femme, puisque c'est celui qui a l'intelligence qui commande. Donc c'est aussi bien l'homme que la femme, on ne dit pas. On dit le maître, celui qui a l'intelligence. Quelquefois, les femmes prévoient beaucoup mieux. C'est celui qui est capable de prévoir et d'avoir l'intelligence. Et alors, celui qui exécute. L'exécute, celui qui exécute, c'est aussi bien l'enfant que l'esclave. Celui qui est incapable d'avoir la prudence. Celui qui n'a pas la prudence, c'est son bien d'exécuter. Parce qu'autrement, il fera toutes les bêtises possibles. Le garçon. C'est l'esclave du maître coq. Alors, le maître coq, il commande et l'esclave, il exécute. Et alors, s'il veut commander à ce moment-là, qu'est-ce que dira le maître coq? Eh bien, allez-y, puis on verra. Puis alors, tout sera gâté. Parce que tout sera bien son. Alors, c'est ça qu'Aristote veut montrer. C'est que chacun a sa place. Et donc, il y en a trois. Une famille se constitue de trois, pas de deux. Et vous comprenez pourquoi? C'est qu'il faut nécessairement une certaine efficacité, un certain bien commun pour la famille. Il faut vivre pour survivre. Ça ne peut pas être autrement. Pour que l'espèce puisse continuer, il faut vivre. Donc, le point de vue économique, nous allons le voir tout à l'heure, parce que ça, c'est un des points de vue très intéressants de Aristote. Le point de vue économique s'enracine dans la famille. Le point de vue économique ne s'enracine pas dans l'État, mais dans la famille. Ça aussi, c'est un point de vue très spécial et très important à souligner. D'autre part, la première communauté formée de plusieurs familles, en vue de la satisfaction de besoins qui ne sont plus purement quotidiens, c'est le village. L'ensemble de plusieurs familles, alors la famille peut être plus ou moins nombreuse, ça va former le village. Par sa forme la plus naturelle, le village paraît être une extension de la famille. Ça paraît être une extension de la famille. Ses membres ont, suivant l'expression de certains auteurs, sucé le même lait et comprennent enfants et petits-enfants. Donc il y a la tribu, si vous voulez. La tribu forme le village. Et c'est ce qui fait qu'à l'origine, les cités étaient gouvernées par des rois et que les nations le sont encore de nos jours. Car cités et nations ont été formées par la réunion d'éléments soumis au régime monarchique. Toute famille, en effet, est régi dans la forme monarchique par le mâle le plus âgé, de sorte qu'il en est de même pour les extensions de la famille, en raison de la parenté de leurs membres. Et c'est ce que dit Homère. Chacun dicte la loi à ses enfants et à ses femmes. Donc vous voyez, il y a la famille en premier lieu. Puis vous avez le village. Plusieurs familles, multitude de familles. C'est le phénomène de l'extension. Alors quand on dit le phénomène de l'extension du village, l'autorité ne change pas encore de notre spécifique. C'est toujours pour la survie de l'espèce. Et vous avez le troisième qui va apparaître, la police. Et la police, pas comme vous l'entendez aujourd'hui. Hein. La police, c'est-à-dire la cité. La cité s'est dégradée, vous voyez. Elle est restée dans la police. La police, la cité, c'est la communauté parfaite. Ce qui est très important et intéressant, c'est de voir qu'au fond, il y a trois types de communautés. Une enracinée dans la nature, purement naturelle. L'union de l'homme et de la femme. L'union de celui qui commande et qui est commandé. C'est aussi naturel. Très, très curieux. C'est très important à saisir, ça. L'extension, donc la quantité intervient. Une famille seule ne peut jamais faire une police. Il y a l'extension, il y a le nombre. Alors, on est en face d'une communauté intermédiaire, ce qu'on appelle le village, la multitude de familles, le village. Et puis ensuite, la police. Car ces cyclopes, donc au dire d'Homère, vivaient en famille dispersée, et tel était anciennement le mot d'habitation. Et la raison pour laquelle les hommes admettent unanimement que les dieux sont gouvernés par un roi, c'est qu'eux-mêmes sont encore aujourd'hui gouvernés parfois de cette manière, ou l'étaient autrefois. Et aujourd'hui, on dirait que les hommes ne sont plus gouvernés par un roi, mais leur mot « roi » reste au niveau théologique. C'est très amusant, la montée et le retour. Hein. Pour la vision d'Aristote, le roi est toujours lié au père. Parce que la royauté, c'est l'autorité paternelle. C'est ça le propre de la royauté, c'est une autorité paternelle. Et c'est une autorité enracinée dans la nature. Alors, c'est très curieux que le mot « roi » va s'appliquer à Dieu, et le jour où même la royauté disparaît au niveau peuple, au niveau des hommes, ça demeure au point de vue théologique. De même que les hommes attribuent aux dieux une figure semblable à la leur, il leur attribue aussi leur façon de vivre. C'est Xénophane qui disait ça déjà. Il disait que si les éléphants pouvaient parler de Dieu, ils donneraient à Dieu la physionomie de l'éléphant. Cette projection psychologique. Xénophane, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la philosophie présocratique, Xénophane, c'est le premier philosophe grec monothéiste. Très étonnant. Il a C'est un aide, Xénophane. C'est un philosophe poète. Un philosophe poète. Tous les philosophes sont un peu poètes et tous les poètes sont un peu philosophes. Dans l'Antiquité. Et Xénophane, alors, lutte aussi contre le point de vue anthropomorphisme. L'anthropomorphisme qui consiste à projeter sur Dieu ce qui est humain. Alors, il y a une espèce de projection là que Xénophane ne peut pas accepter. Enfin, donc voyez bien que l'autorité de la famille et du village, ce n'est qu'une extension. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve une finalité commune. La survie de l'espèce. Mais Monsieur le maire, selon Aristote, n'aurait pas pu... C'est du type de l'autorité du père. Il n'y a pas plus de très spécifique, c'est l'extension. Tandis qu'au contraire, lorsqu'on arrive à la police, vous allez voir, on a un nouveau type d'autorité. Parce qu'il y a un nouveau bien commun. Ici, c'est le même bien commun. Le bien commun de la famille et du village est le même. Enfin, la communauté formée de plusieurs villages et la cité, la police, au plein sens du mot. Elle atteint dès lors, pour ainsi dire, la limite de l'indépendance économique. Et c'est ça qui est intéressant. Vous touchez quelque chose d'ultime dans la police, l'indépendance économique. La limite de l'indépendance économique. Ainsi, formée au début pour satisfaire les seuls besoins vitaux, elle existe pour permettre de bien vivre. La cité, c'est pour le bien vivre, le zen. Le bien vivre. Vous voyez que la culture est au niveau de la police. Pas au niveau de la famille, pas au niveau du village. Au niveau de la police, donc de la cité. Parce que pour bien vivre, il faut une culture. Permettre d'épanouir en nous notre intelligence et notre cœur. C'est pourquoi toute cité est un fait de nature. Vous voyez, le souci d'Aristote de montrer l'enracinement de la communauté dans la nature. Ce n'est pas conventionnel. Alors, n'oublions pas qu'on est en face des sophistes et les sophistes disent que la communauté, elle est conventionnelle. Et le souci d'Aristote, ainsi que de Platon, c'était de montrer que la communauté s'enracine dans la nature, que c'est un phénomène naturel, pas conventionnel en premier lieu. La différence, vous voyez, de montrer le côté naturel chez Aristote et chez Platon, c'est que pour Platon, c'est par le besoin qu'on montre le côté naturel, pour Aristote, c'est par la fécondité et le bien-vivre, donc la finalité. C'est pourquoi toute cité est un fait de nature, s'il est vrai que les premières communautés le sont elles-mêmes, car la cité est la fin de celle-ci. Donc, elle touche la limite de l'économie et elle finalise toutes les communautés. Parce que c'est la communauté parfaite. Si c'est la communauté parfaite, elle donne un sens, en finalisant, elle donne un sens. Elle donne un sens à toutes les autres communautés. Car la cité est la fin de celle-ci, et la nature d'une chose est sa fin, puisque ce qu'est chaque chose, une fois qu'elle a atteint son complet développement, nous disons que c'est là la nature de la chose. Alors voyez le lien entre nature et fin. Une réalité n'est pleinement elle-même que quand elle a atteint sa fin. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on sait exactement ce qu'elle est. La communauté, comme phénomène nouveau, n'atteint sa fin que lorsqu'elle est police, que quand elle est cité. Alors à ce moment-là, elle atteint sa fin. Et elle est parfaite comme communauté. Nous disons que c'est là la nature de la chose, aussi bien pour un homme, un cheval, une famille. En outre, la cause finale, la fin d'une chose, est son bien le meilleur. La pleine suffisance, l'autarkeia, est à la fois une fin et un bien par excellence. Ça, c'est la chose très importante qu'il faut comprendre. L'autarkeia. Ça, c'est un. L'autarkédia, on dira l'autonomie. Si vous aimez mieux, c'est encore mieux, la pleine suffisance. Celui qui n'est plus dépendant de personne, qui n'est plus relatif à autre chose. Donc la cité, c'est la communauté parfaitement indépendante. Elle a l'autarkédia. Tandis qu'au contraire, la famille reste dépendante des autres familles. Et les familles dans les villages restent dépendantes de la cité. Et la cité est seule, celle qui a son autonomie. Alors, si elle est seule qui a son autonomie, elle est donc capable de donner une éducation parfaite. Puisque ça, c'est le propre de la cité. La famille ne donne pas une éducation parfaite. La famille donne une certaine éducation morale, mais pas une éducation parfaite. Donc la pleine suffisance est à la fois une fin et un bien par excellence. L'autarkeia. Ces considérations montrent donc que la cité est au nombre des réalités qui existent naturellement. Vous voyez, comme il insiste là-dessus, pour lui c'est capital. Et que l'homme est par nature un animal politique. Ça, c'est la fameuse expression d'Aristote qu'il ne faut jamais oublier. Vous êtes un animal politique. Nous sommes tous des animaux politiques. C'est-à-dire que par nature, on vit en communauté. Par nature. Donc l'homme est un animal politique. Un politikon. Zoon politikon. Hein? Un politikon. Et celui qui est sans cité, naturellement, et non par suite des circonstances. Comprenons bien. Par suite des circonstances, c'est être émigré. Celui qui est émigré n'est pas sans cité. Celui qui est sans cité, c'est celui qui est incapable de vivre en communauté. Celui qui est sans cité, et non par suite des circonstances. Donc naturellement, il est sans cité. Et ou un être dégradé, ou un être au-dessus de l'humanité. Ce qui dira que le solitaire, qui vit indépendamment de la communauté, est ou un dieu, ou une bête. Ce qui est parfaitement vrai. Alors là, c'est tout à fait juste. C'est que la communauté maintient un certain niveau. Si vous étiez seul, à vivre seul, bien je crois que la plupart d'entre vous, on les reverrait au bout de 10 ans, je ne sais pas dans quel état ils seraient. Intéressant à voir. Hein? Il faudrait mettre 10 ans. Hein? Ou un être dégradé, ou un être au-dessus de l'humanité. Il est comparable à l'homme traité ignominieusement par Homère de sans famille, sans loi, sans foyer. Car en même temps que naturellement apatride, il est aussi un brandon de discorde. Et on peut le comparer à une espèce isolée au jeu de Trictrac. C'est très joli ces images. Vous voyez que c'est le jeu là, qui apparaît. Ce n'est pas le point de vue, donc c'est le point de vue du jeu, c'est le point de vue du Thatcheret. Et le brandon de discorde, c'est le point de vue politique. Les deux analogies. Mais que l'homme soit un animal politique, il y a plus haut et à un plus haut degré qu'une abeille quelconque ou tout autre animal vivant à l'état grégaire. Cela est évident. L'animal vit à l'état grégaire, pas au niveau politique. Distinguons bien le social et le politique. Vous voyez, ça, c'est l'infirmité du social, parce que vous pouvez parler du social de l'abeille. Et vous pouvez parler du social de l'homme. Alors, il faut appeler le grégaire et le politique. Tous les deux, c'est du ça implique du social, mais le social comme tel n'implique pas la finalité. Tandis que le politique implique la finalité, dans le langage propre d'Aristote. La nature, en effet, selon nous, ne fait rien en vain. Ça, nouveau principe. La nature, ou action, la nature ne fait rien en vain. On a dit tout à l'heure, la nature aide de spécialiser chacun pour un métier particulier, pour une fonction particulière. L'homme seul, de tous les animaux, possède le logos. Voilà. Vous voyez donc, qu'est-ce qui fait que l'homme est un animal politique ? Orthos logos, c'est la prudence, l'homme qui agit droitement. Donc, il a le logos. Or, tandis que la voix ne sert qu'à indiquer la joie et la peine, phoné, et appartient pour ce chef, pour ce motif, aux autres animaux également. Car leur nature va jusqu'à éprouver les sensations de plaisir et de douleur et à se les signifier les uns aux autres. Le discours, le logos, sert à exprimer l'utile et le nuisible et par suite aussi le juste et l'injuste. Ça, c'est capital. On essaie de comprendre le fondement de l'homme politique. Oui, c'est tout à fait différent, si vous vous souvenez un tout petit peu de ce qu'on a vu dans la République de Platon. C'est totalement différent. Platon n'a pas essayé de comprendre qu'est-ce qui est la raison propre de l'homme politique. Bon, il n'a jamais dit l'homme politique comme tel, hein, parce que l'homme pour lui n'est pas politique. L'homme pour lui est contemplatif. Et c'est pas l'homme, c'est l'âme. L'âme de l'homme est contemplative. Voilà ce que dirait Platon. Et l'âme de l'homme, unie au corps, devient politique. C'est à cause du corps. Pour Aristote, c'est l'homme. On ne fait pas la distinction de l'âme et du corps, parce que c'est la même réalité. C'est l'homme comme tel qui est politique, c'est-à-dire l'homme comme tel qui est parti d'un tout, d'une communion. Et pourquoi est-il parti du tout ? À cause du logos, à cause de la raison, à cause de la parole. Or, tandis que la voix ne sert qu'à indiquer la joie et la peine, c'est le cri, et appartient pour ce motif aux autres animaux également, car leur nature va jusqu'à éprouver les sensations de plaisir et de douleur, et à se les signifier les uns aux autres. Le logos sert à exprimer l'utile et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste, car c'est le caractère propre de l'homme par rapport aux autres animaux d'être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions morales. Et c'est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité. Fondement de toute commune, de toute politique, de toute cité, c'est le logos. Ce n'est pas le cri. Si c'était le cri, donc la joie et la tristesse, nous aurions un agrégat d'animaux. Et celui qui crie le plus fort, il domine. C'est dégringole de temps en temps la communauté au niveau de l'agrégat animal. Alors, à ce moment-là, c'est celui qui crie le plus fort. On est en face d'un agrégat. On n'est plus en face d'une communauté politique. Une communauté politique, c'est le logos. Et le logos regarde le juste et l'injuste. Là, nous retrouvons, vous voyez, Platon disait tout de suite la justice, sans expliquer. Pourquoi c'est le juste et l'injuste ? Parce que c'est le logos. Et le logos seul est capable d'atteindre le juste. En outre, la cité est par nature antérieure à la famille et à chacun de nous pris individuellement. Alors là, très important. Première vision, première vision, premier niveau par où je regarde la cité. Le but d'Aristote, c'est pas de regarder la famille. Il ne fait pas une philosophie de la famille. C'est nous qui faisons des théologies de la famille. Et on aime mieux faire la théologie de la famille plutôt que la théologie de la politique. Et Aristote, philosophe, dépasse tout de suite la famille pour regarder la police. Vous voyez la différence de mouvement. Il faut sentir ça très fort. Hein. Au niveau théologique, la famille est plus proche de Dieu que la cité. Et donc elle est première au niveau théologique. Et au niveau philosophique de la communauté, la famille est première génétiquement. Et elle est seconde selon l'ordre de perfection. Alors vous voyez, si je lis un peu matériellement Aristote sans comprendre ces points de vue-là, je dirais qu'il y a contradiction. D'un côté, il dit que, alors c'est très simple, dès que vous êtes en phase d'une contradiction d'Aristote, vous prenez une paire de ciseaux. Et vous dites, premier, ah, le premier Aristote, le second Aristote. Alors vous avez un premier Aristote et un second Aristote, c'est très simple. Oubliant complètement ce qu'Aristote dit lui-même, toute sa philosophie, qu'il y a toujours deux manières d'ordonner. Une première, de l'imparfait vers le parfait, et une seconde, à partir du parfait vers l'imparfait. Et ça, c'est capital, hein, si on veut comprendre. C'est ça l'analogie. Vous voyez, il n'y a pas qu'un seul ordre, il y a deux ordres. Différents. Et ils sont tout à fait différents. Ça, vous ne trouverez pas ça dans beaucoup de philosophes. Comptez-les. Parce que la pensée dialectique est une pensée qui, justement, ne prend pas ce point de vue-là. Cherchez dans la limite, c'est les deux ordres. Vous ne les trouverez pas. Parce que c'est l'ordre du possible. Et si c'est l'ordre du possible, vous ne pouvez pas trouver la distinction des deux ordres. Donc, en outre, alors, second point de vue, mais voyez, Aristote ne... Nous aurions, nous, modernes, nous mettrions premier niveau d'intelligibilité, première manière de concevoir, seconde manière. Aristote dit simplement en outre, en plus, de plus, c'est tout. Alors ne loupez pas le tournant. La cité est par nature antérieure à la famille. Donc elle est première, la cité. Elle est première par nature. Et la famille est première par nature. Alors, vous voyez, contradiction d'Aristote. Donc, au niveau de pensée, le début de sa vie philosophique, le terme de sa vie philosophique. Et chacun de nous pris individuellement. Donc la cité est antérieure à chacun de nous pris individuellement. Vous voyez, là, c'est du Platon tout court, tout cru. La justice est écrite en grandes lettres dans l'État. En petite lettre dans l'individu, c'est bien ça. Eh bien, c'est pas ça du tout. Parce que c'est deux aspects différents par lesquels je saisis le point de vue de l'ordre de la famille et de la cité. Le tout, en effet, voilà l'analogie, l'explication. Le tout, en effet, est nécessairement antérieur à la partie. Puisque le corps entier, une fois détruit, il n'y aura ni pied ni main, sinon par simple homonymie et au sens où l'on parle d'une main de pierre, une main de ce genre sera une main morte. Vous voyez, l'analogie que prend Aristote, hein, le tout et la partie. Faisons attention parce qu'il y a divers tout et diverses parties. Alors ici, on prend le tout vivant. Le tout vivant, en effet, est antérieur à la partie. Parce que si le tout n'existe pas, c'est le tout organique, si vous voulez. Le tout organique est antérieur aux parties. Et il se développe homogéniquement comme tout organique. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit du tas de pierres, il s'agit encore d'un tout. Ben oui, mais la pierre est antérieure au tout. Donc faisons attention, hein. Quand on parle de la relation entre tout et partie, le tout est antérieur à la partie quand il s'agit d'un tout vivant, organique. Et la partie est antérieure au tout quand il s'agit d'un tout matériel. Je continuerai ça, parce qu'il faut voir ce chapitre 2, puis nous verrons le chapitre 3 aussi. Alors, si vous avez le temps de le lire, lisez-le, pour mieux saisir et mieux comprendre. Alors je vous demanderai ensuite si vous avez des questions à poser, parce que c'est quand même question très importante et très délicate. On ne va pas tout voir, toute la politique, hein, mais j'aime bien de voir ce noyau central qui est très important, l'ordre de la police et de la famille, qui est très très important à saisir. Puis on verra les formes de gouvernement. Ça, c'est classique. Mais il faut le savoir. Toutes les femmes.